Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour assister à cette rencontre autour des métiers dans l'enseignement. Ce soir, nous avons deux intervenants. Et dès à présent, je vous prie de bien vouloir excuser le chef d'établissement qui était prévu. Malheureusement, cette période de, comment dire, de conseil de classe, voilà, ils sont fort occupés. Au dernier moment, il n'a pas pu venir. Mais nous avons quand même deux personnes qui pourront vous parler des métiers de l'enseignement et puis répondre à vos questions. Nous avons Patrice Herzet, qui est directeur de l'UNICEF Poitou-Charentes, et M. Mario Coutreau, qui est directeur de l'UFM Poitou-Charentes également. Ils vont vous présenter au début de la soirée leur exposé. Et puis ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions, vous êtes peu nombreux. Voilà, ça va être un échange. Voilà, Mario, si tu veux commencer.
Bien, bonsoir. On a préparé un peu ce petit débat-là, qui sera plus un débat qu'une conférence. Moi, je regrette sûrement autant que vous l'absence d'un chef d'établissement, parce qu'il y a sûrement des questions que vous posez auxquelles on aura des difficultés à répondre. Je ne sais pas, moi, est-ce que la formation dispensée convient bien pour la pratique dans un établissement, etc., etc. Est-ce que la masterisation fait que les nouveaux sont moins bien formés que ceux d'avant? Mais ça, il nous sera difficile de répondre à ça. Je comprends que ça peut être une interrogation. Je vais démarrer. Moi, je vais vous faire une présentation très brève en m'appuyant sur un diaporama. Je ne sais pas si c'est des choses qui vont vous intéresser, mais ça sera suffisamment général et rapide. Et je pourrai après revenir en détail sur un point d'une diapo, voire sur des points que je vais laisser sous silence, sous réserve que je puisse y répondre. Mon collègue vous fera aussi une brève présentation. Et après, c'est vous qui pourrez déterminer les thématiques. On pourrait définir plusieurs thématiques, puis passer un petit temps sur chacune des thématiques. Alors... je voulais vous dire quelques mots sur la formation initiale des enseignants, telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Sachant que je pense que tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, vous pouvez l'oublier, mais a toutes les chances d'être faux, passé le mois de mai, et ceci, quel que soit le président élu. Il y aura des changements, que l'actuel président soit reconduit. La réforme, tout le monde est d'accord qu'il va falloir la réformer. Et si ce n'est pas lui qui est élu, il va falloir la repenser. Vous n'allez pas à vous en faire. Mais bon, je pense, ce qui est sûr, c'est que cette réforme qu'on appelle la masterisation, personne ne reviendra dessus. D'accord ? Mais après, une fois qu'on a dit la masterisation, on n'a pas dit grand-chose, il y a tout ce qu'il y a derrière. On se préoccupe de la formation des enseignants depuis 1833. C'est dû à le ministre de l'époque, ça ne s'appelait pas ministère de l'éducation nationale, de l'instruction publique, le mot national n'apparaissait pas. Et donc la loi Guizot qui propose une restructuration sur plusieurs points, dont l'un est se préoccuper de la formation des futurs enseignants. Et donc l'idée de mettre en place ce qui s'appelle les écoles normales. Ce personnage, on sortait d'une période assez particulière, avec des guerres, une situation économique assez désastreuse. J'aime beaucoup cette phrase, à la limite, une phrase dont certains, voire la plupart, voire tous aujourd'hui, pourraient peut-être essayer de se l'approprier, c'est que lorsque les problèmes apparaissent économiques, pour les résoudre, c'est peut-être pas en se penchant sur l'économie, mais c'est en se penchant sur la politique et la sociologie qu'on trouverait peut-être des solutions pour s'en sortir. J'aime beaucoup ça. Et donc, c'était assez audacieux de se dire, dans la situation actuelle, l'urgence et le point principal, c'est l'éducation. Alors que ce n'était pas la priorité apparente. Donc, naissance des écoles normales, au moins dans l'idée, parce que ça a été long à se mettre en place, 1833. Et donc, on a donc cette loi Guizot, on a la loi Bert, et la formation des enseignants entre 1833 et 2010, donc un peu moins de deux siècles, eh bien, on a donc les écoles normales départementales. Hein, on avait une école normale dans chacun des départements. Et cela court jusqu'en 1989. Donc, c'est très récent. Hein. Et puis, dû à Lionel Jospin, on a la création d'instituts académiques, d'instituts universitaires, hein, c'est le U de IUFM, autonome, hein, c'est-à-dire pas dans l'université, mais évidemment travaillant en partenariat avec l'université. Donc cet institut pour former les maîtres. Et alors ça va de pair, cette arrivée des UFM, ça va de pair aussi avec l'obligation d'être détenteur d'un bac plus 3 pour pouvoir passer un concours d'enseignement. Donc ça, c'était déjà le cas pour tous ceux qui envisageaient d'enseigner en collège et lycée, en gros les CAPES, mais c'était nouveau par rapport aux professeurs des écoles. D'ailleurs, jusqu'à cette époque-là, jusqu'ici, on parlait d'instituteurs et surtout d'institutrices, hein, puisque, et c'est encore vrai, les filles, vous êtes plus nombreuses à envisager ce métier que les garçons. Donc voilà, les institutrices. Et en 89, on se dit il faut un bac plus 3 pour chacun. Et c'est là, et là c'est un peu dommage, parce que c'est un beau terme, instituteur. On est passé aux professeurs d'école. Hein. Changement d'intitulé, changement d'exigence, donc bac plus 3. Mais évidemment, ça allait de pair avec changement de reconnaissance aussi, c'est-à-dire un salaire à l'entrée du métier équivalent. Et je ne suis pas un spécialiste du professorat des écoles, mais le peu que j'ai connu, ne serait-ce que quand on est parent et qu'on a un môme, on voit le travail d'un enseignant d'école et c'est sans aucun doute autant prenant et autant exigeant qu'un enseignant de collège et lycée. Voilà. Et puis, à partir de 2008, la formation des maîtres est intégrée dans les universités. Alors, attention, quand on passe à UFM, on fait une croix sur école normale, ça n'existe plus. Mais, et je sais que c'est vrai dans bien, bien des têtes, le fait d'être passé ici ne veut pas dire que les UFM sont morts. Hein. Ils existent toujours. Alors, avec plus ou moins de facilité, etc. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils existent toujours en tant que structure. Certains se développent mieux que d'autres. Bon, la plupart d'entre vous, vous êtes Poitevin. Je pense que l'UFM de Poitiers se développe plutôt bien par rapport à ce que font les instituts au niveau national. Ça veut dire que c'est dû à deux choses. C'est dû aux exigences et aux compétences reconnues des personnes qui bossent à l'UFM. C'est dû aussi, et ça faut le reconnaître, à l'accueil favorable des collègues de l'université. Et je ne dis pas ça parce que j'en vois au moins un ici, l'université de Poitiers est une université où globalement les gens se disent le système éducatif et former des enseignants, c'est un enjeu national et auquel notre université doit participer. Donc voilà, hein, les UFM existent toujours. Alors, voilà globalement pour l'évolution. Sur le schéma actuel pour la formation des futurs enseignants. Et là, je pourrais détailler, mais je passe rapidement. Hein. Alors que je vous ai dit qu'avec les UFM, il fallait un bac plus 3, eh bien, l'intégration a été suivie de la masterisation, c'est-à-dire la réforme de la formation des futurs enseignants, qui a été mise en place en septembre 2010 dans toutes les universités qui s'occupaient de la formation des enseignants. Et donc, le changement, il est là, c'est que du temps des UFM, ça s'arrêtait après le pavé blanc, hein, au niveau L3. Et avec la masterisation, eh bien, il y a deux années de plus. Hein. Donc, deux années qui constituent un master, donc la première année, un M1 et un M2. Et le concours, actuellement, se trouve dans la seconde année en M2. Donc vous avez des écrits qui ont lieu au premier semestre. Alors, très tôt pour le professorat des écoles. Les écrits ont lieu fin septembre. Donc on voit toute la difficulté rentrant de grandes vacances, etc. Il faut se remettre dans le bain et passer un écrit fin septembre, après trois semaines où on a eu à peine le temps de revoir, etc. Bon, donc ça pose beaucoup de difficultés pour les concourants eux-mêmes. Et les oraux sont placés en fin de M2, niveau mai. Voilà. Et donc là, la formation à l'Université de Poitiers, mais globalement c'est vrai ailleurs aussi, au sein des masters, est faite par les composantes disciplinaires. Le master qui prépare à enseigner les mathématiques, donc le CAPES de maths, bien, est porté par la fac de sciences. Et évidemment, pour enseigner les maths, il faut quand même dominer les maths. Donc il y a du disciplinaire et il y a beaucoup de mathématiques, vous l'aurez compris, c'est vrai, idem pour toutes les disciplines. Et puis, il y a aussi une partie professionnelle, elle est assurée par des UFM. Et à la fin, il faut avoir à la fois le parcours vert, c'est-à-dire être détenteur du master, et le parcours bleu, évidemment, être lauréat du concours, pour ensuite intégrer un établissement avec le statut de fonctionnaire stagiaire, professeur stagiaire, pendant un an. Après, on est titularisé ou non. La plupart sont titularisés. La plupart de ceux qui arrivent à vivre leur année de stagiaire, parce que ce n'est pas facile. Les conditions de cette année ont aussi évolué avec la masterisation de l'année de stage. Avant la masterisation, il y avait un tiers du temps où on était face à une classe. Et puis les deux tiers du temps, on était en formation à l'UFM. Alors, formation à la fois disciplinaire, de la didactique de la discipline, et formation transversale, pédagogique, etc. Bon. Maintenant, le stagiaire, il est à temps complet. Donc, il enseigne à temps complet. Et je crois que c'est un tiers de son temps d'exercice est consacré à sa formation. Alors, beaucoup m'avaient entendu, ça veut dire deux tiers d'enseignement et un tiers de formation. Niette, pas du tout. C'est à temps complet en enseigne, et puis, sur son temps libre, il y a une formation, globalement, d'un tiers du temps où on enseigne. Donc, c'est une vie très, très compliquée et très lourde, cette année de stage. Bon, mais ça, c'était l'année dernière, ça commence à s'adapter, etc. Bon, et tout ça va être vu. Donc voilà le schéma. Et donc, cette année-là, alors qu'avant, on préparait le concours pendant un an et après, on était professeur stagiaire, dans cette année-là, évidemment, on prépare le concours, on n'a pas oublié de préparer le concours, mais c'est un master et ça donc les exigences d'un master. C'est-à-dire, ça ne se limite pas à une préparation concours. Ce qui n'est pas idiot, parce que tous ceux qui n'auront pas le concours, il ne faut pas que ce soit une voie de garage, quoi, deux années perdues. Donc, il faut donner des compétences permettant, ou bien un débouché immédiat, autre que l'enseignement, si on n'a pas le concours, permettant des réorientations aussi. Des réorientations vers d'autres cursus, master recherche, ou ce que vous voulez. Et donc, il y a du disciplinaire, mais il y a aussi des choses telles que l'initiation aux méthodologies de la recherche. Et ça, ce n'est pas idiot. Ce n'est pas idiot pour les réorientations, mais c'est loin d'être idiot aussi pour un futur enseignant. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer aujourd'hui, quand je fais ça, je ne défends pas la réforme. Bon, il est difficile, la réforme masterisation, il est difficile aujourd'hui d'imaginer être un enseignant et de ne pas avoir la volonté de se former et de se former au développement les plus récents de la réflexion universitaire. Et je veux dire, c'est pas quelque chose de trivial. Il y a une démarche, une façon de faire, de penser, etc. Et donc, donner toutes ces billes-là est tout sauf inutile. Mais tout ça fait partie du master, donc ça fait des masters très lourds en volume. Bon, je passe là-dessus. Et à Poitiers au moins, et ça, c'est pas le cas partout, la part du disciplinaire en crédit, vous savez tous qu'avec le LMD, vous avez, pour valider une année, 60 crédits. Donc, master, il faut 120 crédits. Et bien, à Poitiers, la part du disciplinaire, c'est 60 crédits sur les deux ans, et du professionnel, 60 crédits. Donc c'est la volonté, là on voit bien de l'Université de Poitiers, de dire c'est important et toute la valeur donnée à la partie professionnelle. Bon, mais là c'est les crédits, ça ne veut pas dire que professionnellement on est bien formé, puisqu'il faut se former dans le cadre national. Mais au moins il y a la volonté, nous, de dire ces deux parts sont indissociables, et d'une, l'idéal ça serait de les croiser, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, sont indissociables et ont une importance équivalente. Donc là-dessus je passe. Donc ça conduit à des volumes sur 2 ans de 1000 heures de présentiel pour un master. Et ceci, c'est donc présentiel, c'est en dehors des semaines de stage. Donc ce sont des choses très lourdes. Et au niveau des stages, donc il y a des stages au niveau du M1. Ce sont des stages qui sont dits d'observation ou de pratique accompagnée. Ça, c'est vrai en école comme en collège et lycée. Alors, stage d'observation de façon assez réduite, puisque la plupart des étudiants qui sont en master ont suivi en licence des modules de pré-professionnalisation, où bien souvent, ils allaient déjà dans un établissement. Donc. Et la pratique accompagnée, si vous êtes dans une classe, mais avec l'enseignant, vous l'aidez dans la préparation de ses cours, vous avez une réflexion avec lui à la fin de ses séances, et puis petit à petit, il vous confie sa classe pour une durée, une partie de la journée, etc. etc. Et après, ça va crescendo. Bien, alors, le maximum, c'est 108 heures, mais c'est le maximum, on en est loin. Cette année, je crois que c'est 3 semaines, 3 semaines au niveau des professeurs des écoles et 3 semaines au niveau des professeurs de collège et lycée, la durée de ce stage en première année. En deuxième année, la durée est d'ailleurs équivalente, 3 semaines. Et la deuxième année, le stage est un stage en responsabilité. Un stage en responsabilité, et bien là, c'est vous professez, donc vous exercez votre futur métier, et donc vous êtes seul face aux élèves. Voilà. Que ce soit professeur d'école pour toute la journée, ou le professeur de maths, 3 heures aujourd'hui, 5 demain, etc. Mais évidemment, vous avez un tuteur qui va vous aider à préparer vos cours, etc., à faire des remédiations s'il voit que vous avez des difficultés. Donc, j'en ai plus pour très longtemps au diaporama, parce que ça, c'est pas très important, c'est la discussion. Donc, les contenus des masters, en gros, il y a 3 champs. Il y a la maîtrise des disciplines, donc les connaissances disciplinaires qui vont plus loin que les connaissances nécessaires au seul concours, aux attentes des jurys. Il y a les développements récents de la recherche, recherche dans la discipline comme recherche professionnelle. Et donc là, on fait appel à des spécialistes ayant à l'Université de Poitiers, aussi bien en poste à l'UFM que chez nos amis des autres facs, des composantes, des spécialistes de psychologie, sociologie, sciences de l'éducation, etc., etc. Une autre partie est bien évidemment préparée au concours, concerne la préparation au concours. Et bien souvent, alors vous allez dire, en maths, ok, c'est la même chose, quoi, parce qu'on demande des maths là et des maths là. Non, parce que les maths qu'on demande au CAPES de maths n'ont rien à voir avec des connaissances disciplinaires de maths du niveau master. Même tous ceux qui enseignent dans cette préparation disent ce qu'on attend, c'est une maîtrise de tout ce qui se fait en L2, L3. Donc, il faut jongler sur les connaissances d'un haut niveau et après la maîtrise des connaissances d'un autre niveau. Donc c'est très compliqué, plus la professionnalisation. Et la professionnalisation, elle consiste à quoi ? En quoi ? Elle consiste à travailler, je ne dis pas qu'on y réussit, à travailler pour vous amener à la maîtrise des compétences de l'enseignant. Et ça, c'est défini, c'est bien cadré, il y a 10 compétences. Alors qui sont déclinées, vous avez une demi-page pour chacune des compétences, là je vous ai donné les titres. Donc, la première peut vous paraître, et moi la première fois que j'ai lu ça, j'ai trouvé ça un peu dépassé. Agir en fonctionnaire de l'État, de façon éthique et responsable. Bon, mais en y réfléchissant, il y a tout un tas de trucs derrière qui sont loin d'être stupides quand même. Donc c'est évident qu'on, on a une responsabilité sociale bon, il y a une attitude à avoir face à certains problèmes ou certains différends qui relèvent de l'éthique. Maîtrise de la langue française, et ça pas simplement pour l'enseignant titulaire de CAPES de lettres, hein, quel que soit l'enseignant. Donc avoir une culture suffisamment large, concevoir et mettre en œuvre son enseignement, hein, ça ne veut pas dire simplement maîtriser l'histoire-géographie, mais après, comment on va faire passer ça? Donc il y a toute une mise en scène, hein. Mettre en œuvre, c'est pas mettre en scène, je suis d'accord, mais bon, sans aller jusque-là, il y a quand même un travail sur cet aspect. Organiser le travail de la classe, prendre en compte la diversité du public, évaluer, je veux dire, l'évaluation, c'est tout sauf trivial. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'évaluation, ayant toujours enseigné à l'université, ça n'a jamais été un de nos gros soucis de se pencher sur l'évaluation, mais quand on enseigne en école ou en collège, lycée, je veux dire, ça demande une forte réflexion. Bon, des choses plus classiques comme maîtriser l'éthisme, mais maîtriser l'éthisme, c'est pas simplement faire sur l'ordinateur l'équivalent d'une feuille papier. Il y a aussi une réflexion, le travail en équipe. Et puis tout ça est important, c'est-à-dire que l'école est tout sauf un lieu fermé, hein, travaille avec les parents, et ça c'est pareil, c'est pas forcément naturel, les partenaires qui sont de plus en plus nombreux au niveau d'école, et puis voilà, se former, innover, donc ça c'est important aussi. Je pense que je vais arrêter là, parce qu'après je vais dans le détail des concours eux-mêmes, hein, qu'est-ce qu'il y a au concours pour sciences d'école, etc., l'écrit à l'oral ou PLC, je pourrais y revenir, et puis... aller dans le détail des contenus de master, mais ou toute autre chose sur l'évolution du nombre de postes au concours, sur la désaffection et le peu d'intérêt pour les carrières, tout ce que vous voulez. Enfin, j'y serai. Voilà.
Donc, je vais compléter ton propos par peut-être une description un peu du métier. Alors, en tant que directeur de l'ONICEP, vous savez que l'ONICEP, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, produit donc des documents sur l'orientation. Hein, vous avez tous eu à une époque de votre parcours des brochures post-3e, post-voie professionnelle, post-lycée, etc. Souvent qui restaient d'ailleurs dans le fond des cartables. Hein, et malgré tout, c'était pourtant un investissement important. Mais il y a énormément de choses dans ces brochures. Et nous produisons aussi de l'information sur des sites concernant les métiers. Donc je vais vous parler évidemment de ce que l'on produit comme information sur le métier d'enseignant pour compléter ce que vient de dire le collègue. Et puis aussi, je parlerai un peu de ma place de conseiller technique, puisque je travaille au rectorat de Poitiers, et que j'ai quand même une vision un peu, alors on va dire, institutionnelle du métier d'enseignant en termes d'attendu. Autant un chef d'établissement, c'est vrai que... aurait une vision, je dirais, concrète, beaucoup plus que, on va dire, que nous. Et c'est dommage qu'il n'y en ait pas, mais bon, voilà, c'est comme ça, on va faire avec. Mais en tout cas, moi, j'ai une vision, travaillant aux côtés d'un recteur, de ce que l'on peut attendre, hein, d'un enseignant dans notre système actuel. Donc voilà, je vous ferai part de ces deux approches-là. Alors, sur l'approche, on va dire, descriptive du métier d'enseignant. Vous dire déjà que globalement, en France, actuellement, sur les statistiques 2010, il y avait 853 000 enseignants en France. C'est quelque chose de très important. Vous savez que l'éducation est le premier budget de l'État et qu'il y a à peu près un peu plus d'un million, 1 100 000, je crois, personnels de l'éducation nationale, dont la majorité, 857 000, sont des enseignants. C'est la majorité, bien sûr, des employés de l'éducation nationale. Il y a des postes à pourvoir, ça, sans aucun doute. Alors, vous êtes un peu, je dirais, pris sur, à travers des messages assez différents. C'est-à-dire que vous entendez dire « on diminue les postes », donc vous vous dites ben, « ça veut dire qu'il n'y a plus tellement de postes ». C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'actuellement, on a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la pyramide des âges. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui vieillissent, hein, nous vieillissons tous, et il y a forcément des enseignants à remplacer. Et nous avons des grosses vagues de départ d'enseignants depuis pas mal d'années, et ça va continuer à se prolonger. Et puis le deuxième phénomène, en plus de la pyramide des âges, c'est l'augmentation des élèves qui arrive, en fait, après ce qu'on a appelé le boom des années 2000. Hein, vous calculez, 11 ans, ils arrivent en 6e et ils arriveront au lycée dans 3-4 ans. Donc on a besoin d'enseignants, et il faut vous le dire, même si vous entendez dire qu'il y a des suppressions, des suppressions de postes. Hein, on entend 10 000, 16 000, etc. Il n'empêche qu'il y a des recrutements, et peut-être que tu pourras repréciser le nombre de candidats et le nombre de postes à pourvoir sur les dernières années. Donc voilà, donc du travail hein, en perspective. Deuxième point, alors qu'est-ce qu'on dit, quelle information on diffuse sur le métier d'enseignant dans nos fiches ONICEP? Alors d'abord, on parle de la nature du travail. C'est un travail, et c'est d'ailleurs en termes d'attendu quelque chose qui est souvent évoqué, on n'est pas que sur de la transmission de savoir, mais je crois que tu l'as dit, on est aussi sur d'autres capacités attendues. Travailler en équipe. Alors, un enseignant, qu'est-ce que ça fait, en gros? Alors, il y en a sûrement dans la salle, hein, de différents niveaux, d'enseignement, en tout cas. Ça prépare des cours, des corrections, des copies. Ça met au point des exercices adaptés au niveau des élèves. Ça introduit l'idée qu'on est sur de l'individualisation, dès lors qu'on fait des exercices adaptés aux élèves. D'autres activités s'y ajoutent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas encore de la transmission de savoir, hein. On a des activités pluridisciplinaires, visites, voyages. On dit aussi que c'est un travail en équipe, je vous l'ai déjà dit, et on fait partie d'une équipe pédagogique. Et ça, en termes d'attendu au niveau institutionnel, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a quelque chose que l'on constate assez souvent, c'est que vous avez plusieurs attitudes d'enseignants, hein, quand on observe un peu ce qui se passe dans les établissements. Vous avez des enseignants qui sont profession libérale, qui arrivent, qui repartent. Il y en a de moins en moins comme ça, hein, bien sûr. Et puis, il y en a d'autres qui ont bien l'impression de faire partie d'une équipe, c'est-à-dire d'être avec les autres et puis de s'interroger sur qu'est-ce que l'établissement dans son ensemble produit comme résultat. Ça, c'est une des problématiques actuelles. Vous savez qu'actuellement, on regarde, au fond, avec l'état dans lequel arrivent les élèves dans les établissements et dans quel état ils sortent. En gros, on examine un peu... Alors, le mot n'est pas très joli, mais la performance des établissements scolaires. On regarde un peu dans quel état ils y arrivent, avec quelles compétences, quels acquis, et puis comment ils en ressortent. Et donc, pour avoir cette impression de produire une performance, il faut avoir l'impression de faire partie d'une équipe. Et dès lors, un enseignant qui se croit simplement, je veux dire, profession libérale, c'est-à-dire partant, sortant de son établissement sans faire partie d'une équipe, il a du mal à comprendre que collectivement, avec ses collègues, il produit des résultats qu'il faut des fois aller regarder. Donc là, on est toujours dans les attendus. Hein, donc j'aurais un double discours, descriptif et en même temps attendu au niveau institutionnel. On dit aussi qu'il travaille avec le CPE, conseiller principal d'éducation, qu'il travaille avec le conseiller d'orientation psychologue, hein, fonction que moi j'ai moi-même occupée dans ma jeunesse. Et en fait, il est, quand il est prof principal, très attentif à l'orientation des élèves. Donc vous avez des enseignants qui sont particulièrement attentifs à ça et qui sont d'ailleurs rémunérés en partie pour ça aussi, parce qu'il y a une indemnité particulière quand on travaille sur l'orientation des élèves. Alors les compétences requises, comment on décrit les compétences attendues d'un enseignant? Alors, tu me diras si tu retrouves ce qui est attendu. On dit d'abord qu'il doit avoir du tonus et de l'autorité. L'autorité sûrement, hein, mais vous savez bien la différence entre autoritaire et avoir de l'autorité. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire être capable de s'imposer, mais de s'imposer, je dirais, doucement, sans être autoritaire. On dit aussi qu'il doit avoir beaucoup d'énergie. C'est vrai que c'est un métier, enfin moi c'est un métier que je trouve admirable. Hein. Je ne l'ai jamais été enseignant, hein, mais en tout cas ceux que j'ai fréquentés, je trouve que c'est vraiment un métier où on ne peut pas le faire de façon... comme si on allait à l'usine. Hein. On ne peut pas le faire comme si, au fond, c'était quelque chose de neutre. Quand on est enseignant, on a une fonction sociale. On est regardé, on doit être exemplaire. C'est un métier difficile. Hein, difficile, à mon avis, pour des tas de raisons. Alors moi, j'en ai... ça fait 25 ans que je travaille dans l'éducation nationale. Il y a une raison qui me paraît un peu évidente. C'est qu'à mon avis, actuellement, l'école, c'est ce qui tient le mieux face à tout ce qui a du mal à survivre. Alors, je pense, vous savez, quand vous avez des jeunes en face de vous, qu'est-ce qui structure des jeunes? En gros, ce qui les a structurés à une époque, c'était les mouvements de jeunesse. Il y en a de moins en moins. Ça peut être la religion, hein, pourquoi pas. Il y en a de moins en moins. Ça a été l'armée qui les structurait. Ça a été la famille. Alors, l'armée, il n'y a plus. La famille, on sait que c'est difficile, les familles se décomposent, se recomposent, donc ce n'est pas toujours très structurant. Et l'école est en fait, à mon avis, la seule institution actuellement qui structure les jeunes, hein, qui peut les structurer. C'est pour ça que c'est difficile d'être enseignant, parce que vous êtes dans une des institutions, à mon avis, qui tient le mieux, et qui pourtant est une institution très critiquée. Et souvent, moi, je me suis posé la question, pourquoi l'institution scolaire est autant critiquée ? Ben, en fait, c'est un problème de nombre. C'est-à-dire, aussitôt que vous parlez d'un problème d'école, ça concerne d'abord, je ne sais plus combien de millions de jeunes scolaires, hein, et puis les parents de ces jeunes scolaires, et puis maintenant les grands-parents, puisqu'ils s'intéressent aussi à l'orientation et l'avenir de leurs enfants. Donc, en fait, ça concerne toute la société. Donc, tous les problèmes scolaires prennent des proportions incroyables, rien que parce que ça concerne plein de gens, entre les scolarisés, les parents déscolarisés, etc. C'est un problème qui est extrêmement, je veux dire, où tout le monde a un avis, d'ailleurs, en général. Alors, qu'est-ce qu'on demande aux enseignants ? Alors là, j'ai fait une digression. On leur demande souplesse et adaptabilité. C'est-à-dire être capable d'être souple, par rapport à des, je dirais, à des jeunes. Il y a aussi, depuis 20 ans, moi, je suis dans le système, on s'aperçoit qu'on a un peu, je dirais, les problèmes sociaux rentrent à l'école. Si vous regardez dans la description que tu faisais de l'école des années 1900-1950, la plupart des enfants arrêtaient très tôt, hein, à l'école. Ils ne passaient pas leur adolescence à l'école. Actuellement, pratiquement tous les jeunes passent leur adolescence à l'école. Donc tous les problèmes sociaux, les problèmes d'adolescence se vivent à l'école. Donc les enseignants que vous serez peut-être sont en phase d'adolescents. Et donc on a géré des ados qui sont eux-mêmes pris dans l'incertitude, qui sont eux-mêmes inquiets, qui sont eux-mêmes en devenir, donc qui ne sont pas très stables, faut bien le dire. Donc voilà, vous allez avoir affaire à ça. Hein. Donc souplesse, adaptabilité, c'est-à-dire adaptabilité à la diversité des élèves que vous avez en face de vous. Hein, parce que vous avez des élèves divers. Une grande caractéristique de notre système depuis 30 ans, c'est ce qu'on a appelé la massification. C'est-à-dire que tous les élèves passent par l'école, ce qui n'était pas le cas dans les années 50. Hein. Les élèves étaient triés, très peu allaient au lycée. Maintenant, pratiquement tous les élèves passent au lycée professionnel. Donc vous avez des élèves d'origine très diverses, qui sont avec des préoccupations très diverses. Et des fois, le décalage existe entre vous, enfin l'univers des enseignants, je dis vous si vous voulez être enseignant, et l'univers de ces élèves-là, qui des fois viennent de milieux que les enseignants n'imaginent pas. Tout simplement parce que chacun arrive avec des valeurs différentes et quand on est enseignant, on se retrouve des fois avec des élèves de milieux dont on n'imagine pas, avec des problématiques très, très, très différentes des nôtres. Curiosité, expérience. Le professeur doit savoir attirer l'attention de sa classe, expliquer les choses clairement. Voilà un peu comme on dit cette histoire de curiosité, expérience. Alors, où on l'exerce ? En fait, on l'exerce évidemment dans plusieurs endroits, collège, lycée. Il y a des statuts différents. Capétien, c'est 18 heures. Agrégé, alors c'est souvent collège. Agrégé, c'est plus souvent lycée, c'est 15 heures, à ma connaissance. Hein. Le salaire de base brut, parce que ça intéresse aussi les gens qui veulent s'engager dans la profession, c'est 1600 euros pour un certifié, 1700 pour un agrégé. Avec une évolution, avec un échelonnage. Hein, on est dans un système très normé, avec un nombre d'années d'ancienneté qui permet de passer à l'échelon suivant, et donc un salaire qui augmente régulièrement. Des possibilités, et ça on le décrit dans la fiche métier, de promotion sur des concours d'inspecteurs d'éducation nationale. Hein, il faut avoir un certain nombre d'années d'activité. Et puis sur, bien sûr, le concours de chef d'établissement. Hein, voilà. Alors, sur le lieu d'exercice, l'affiche indique une réalité qui se vérifie, c'est que souvent, les premiers, enfin, je dirais ceux qui passent les concours se retrouvent en premier poste en région parisienne ou dans le Nord. Et ça, c'est une réalité. Mais ils reviennent assez vite vers leur origine, en tout cas pour ceux qui veulent y revenir. En tout cas.
Concours collège-lycée, hein, puisque voilà, professeur à l'école, c'est académique, donc voilà.
Sur l'académie. En tout cas, tout ça pour vous dire que ce n'est pas un métier simple. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Les attendus institutionnels sont complexes. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup des enseignants à l'heure actuelle. Si vous voulez simplement, j'ai envie de dire un peu brusquement, transmettre des savoirs, ce n'est pas le métier qu'il vous faut. Transmettre des savoirs, c'est pas, on ne demande pas que ça à un enseignant. On demande plus de choses. Enfin, vous pouvez nous interroger, on aura peut-être des positions un peu différentes. Moi, je suis dans l'institution, dans un rectorat, j'entends parler des chefs d'établissement, j'entends aussi des inspecteurs, parce que je suis inspecteur moi-même, et on voit que les attendus sont quand même sur les enseignants, sur autre chose que transmettre des connaissances ou des savoirs. Donc voilà, c'est ce que je voulais compléter. Par rapport à ce que j'ai dit, tu peux réagir.
Non. Peut-être pour évacuer un problème mais rapidement. Enfin, évacuer, je sais pas, mais bon. Peut-être une fausse idée quand même. Tu disais que je pouvais peut-être en dire quelques mots sur le nombre de postes mis au concours et l'attrait du métier, donc le nombre de candidats à ces concours. Alors on va prendre les concours du second degré, collège, lycée, les CAPES. Bon, quelques chiffres, mais bon, ça devrait être assez éclairant. Parlant, ouais. 2011, 4881 postes. 12 500 présents. Les présents, parce que entre ceux qui s'inscrivent au concours, ce n'est pas dire grand-chose. Les présents, 12 500. Bon. 2010, 5 006 postes. C'est pas, 4880 ou 5 000, c'est pareil. 22 000 présents. Donc là, ce n'est pas la baisse du nombre de postes. Il y a une baisse de l'effectif, alors que le nombre de postes est à peu près stable. 2009, 5 100 postes. 5 100 ou 5 000, c'est pareil. 25 000 présents. Donc, on ne peut pas dire... C'est parce que le nombre de postes baisse qu'il y a moins de candidats. Pour les CAPES, il y a une autre raison. Alors, évidemment, et quand je suis à 2005, si vous voulez, le nombre de postes a augmenté entre 97 et 2002. Vous voyez pourquoi. Puis à partir de 2002, il a, au niveau des CAPES, beaucoup chuté. Puis après, il a continué à chuter, s'est stabilisé depuis 2 ou 3 ans. 2005, 7 800 postes. Bon. Alors, entre 7 800 et 5 000, ça fait 1,5 fois, plus. 37 000 candidats. Entre 37 000 candidats et 12 005 l'année dernière, je veux dire, c'est pas dû qu'à la baisse du nombre de postes. Même si, quand je dis ça, je ne questionne pas la baisse du nombre de postes. Je veux dire, il y a sûrement d'autres phénomènes. Ça, c'est pour le CAPES. Maintenant, professorat des écoles. Professeur des écoles, lui, le nombre de postes a chuté ces dernières années. Alors que le CAPES, il avait tellement chuté que, bon, on était rendu à... Pareil, je vais partir en rétrogradant. Donc, 2011, au niveau national, 2900 postes, 16 000 présents. 2010, 6 600 postes. Et la baisse en un an, 6 600 postes, 35 000 présents. 2009, 6 600 postes, donc entre 2010 et 2009, ça n'a pas évolué au niveau du nombre de postes, 42 000 présents. Donc il y a sûrement une corrélation entre la baisse du nombre de postes et la baisse de l'intérêt pour les concours, mais ce n'est pas une corrélation qui explique tout, quoi. Alors, on peut dire que depuis 2009, il y a eu l'intégration à l'université avec, même si on n'est pas passé à la masterisation qu'en 2010, il y avait une situation bâtarde où c'était à la fois une prépa concours et puis il fallait que ça donne des crédits, que ça soit valorisé, etc. Donc je pense qu'il y avait un manque de lisibilité. On peut dire ça plutôt, la désaffection, c'est à la fois la baisse du nombre de postes et un manque de lisibilité, peut-être de la formation, etc. Peut-être aussi l'impression, parce que les choses se savent vite, que la formation professionnelle n'est plus ce qu'elle était ou n'est plus ce qu'elle devrait être.
C'est pas assez rassurant.
Mais voilà, il y a tout ça. Enfin, je veux dire, là, je vois deux amis qui ont été de mes étudiants. Il y en a un, Le pauvre, il a eu le concours l'année dernière, donc il est passé première année du master, donc la formation professionnelle, il est en train de la vivre cette année. Et il y en a un autre qui a eu la chance, il y a moins de chance parce qu'apparemment ça veut dire qu'il est plus âgé que le premier, mais qui a eu la chance d'avoir une formation il y a peut-être 15 ans, hein, donc une formation professionnelle où je pense qu'il avait un tiers de son temps en bahut et les deux autres tiers à avoir une formation, même si évidemment ce que dispensait l'UFM autonome, n'était pas la panacée, n'a pas résolu tous les problèmes, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais on peut se dire que ce qu'on fait en 300 heures, on a des chances de mieux le faire qu'en 25 heures. Donc voilà pourquoi ce truc des postes, je veux dire, il y a tout un tas de phénomènes.
En tout cas, il y a une crise du recrutement, on peut le
dire. Mais il y a une crise du...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de candidats.
Quand vous voyez pour l'ensemble des CAPES, quand même, 5 000 postes, 12 000 présents... je veux dire, à la limite, les concours sont faciles à avoir aujourd'hui, quel que soit en maths. 980 postes l'année dernière, 1100 candidats ont passé l'écrit, hein, 1050 ont été admissibles à l'écrit. Donc vous voyez le niveau où on est allé, quoi. Je veux dire, fallait pas connaître sa table de multiplication pour pas être admissible. Hein. Évidemment, ils n'ont pas pris autant de lauréats que de nombre de postes, ils sont descendus à 770. Mais je veux dire, il suffisait d'être présent pour avoir le CAPES de maths l'année dernière. Donc, et ça veut dire que moins il y a de personnes, si le niveau du concours est plus faible, et donc on peut se dire que la qualité des enseignants aussi chute, etc. Et tout ça, ça a des incidences pour vous aujourd'hui, mais il faut penser que ça forme les mômes, les futurs citoyens, etc. Quoi. Si, en sciences, s'il n'y a plus d'enseignants en sciences, on ne se posera plus dans 20 ans. Ben, il faut des enseignants en sciences parce qu'on n'aura plus d'étudiants en sciences. Hein. Il n'y aura plus personne pour les former, donc l'affaire sera résolue. Je veux dire, c'est peut-être la façon. Et c'est vrai aussi d'autres disciplines, en lettres, etc. etc. Donc, bon, mais c'est un métier, tu le disais, très complexe, très difficile. Hein, un salaire quand même, bac plus 5, 1600 euros brut. Bon.
Alors il faut ajouter, vous avez dû voir dans la presse et des informations récentes, qu'il est question d'augmenter de 150 à 200 euros par mois.
Il me semble que vous avez dû voir ça aussi. Mais donc c'est quand même, à bac plus 5, c'est quand même un niveau de qualification où les salaires doivent être le plus bas. Hein. Globalement, la plupart des bacs plus 5
sauf dans la déqualification de pas mal de jeunes.
Ah oui, oui. Bacs plus 5. Mais si on oublie la déqualification, ah oui. C'est évident que voilà. Donc il y a tout ça, plus la difficulté, enfin, plus l'image qu'en donnent les médias.
Ouais, d'un métier un peu.
Quand même. Ça n'a rien à voir, mais je vais le dire, j'en parlais tout à l'heure au repas. Le rôle des médias, enfin, c'est monstrueux. Vous avez tous entendu, et ça. Ça a un attrait avec l'enseignement, la prise d'otage qu'il y a eu mardi soir, qu'on peut condamner, c'est pas normal, hein, prise d'otage dans une école à Marseille, etc. C'est pas normal. Mardi soir, prise d'otage, la directrice d'école, trois ou quatre instituts de professeurs d'école, bon, ont passé la nuit avec des parents d'élèves, bon, etc. Bon. Le problème s'est résolu parce que donc c'était un néo-enseignant, un nouveau, qui faisait pas l'affaire, selon les parents, bon, bordélisé, tout ce que vous voulez. CP, je crois. Bon, ça n'allait pas. Où ça a été résolu hier matin, mercredi matin. Donc, le pauvre jeune, il est déplacé et puis il sera remplacé. Donc, ça, c'est inacceptable. OK. Mais ce qui est encore moins acceptable, c'est le traitement qui en est fait par les médias, parce que c'était une école privée. J'imagine, si ça s'était passé dans une école publique, ce qui aurait été dit, hein. C'est des fédérations de parents d'élèves qui mènent ça. Qui est derrière les fédérations de parents d'élèves, les fédérations d'enseignants, etc., etc. Là, cette chose qui est condamnable, que ça soit fait dans le public ou dans le privé, hein, mais là, c'est passé quand même avec une douceur assez remarquable. Bon, donc le rôle des médias sur cet aspect-là et sur, je veux dire, la difficulté qui est réelle, mais il n'y a pas que ça, je veux dire. Et cette difficulté aussi, on peut l'expliquer et dire, bon, voilà, elle vient de là, mais là, apparemment, c'est quelque chose qui tombe sur la tête des enseignants. Et donc, tout ça, ça fausse ça. Donc, je comprends la peur. J'aurai votre âge, je ne sais pas si je me lancerai là-dedans, moi.
Non, mais
très honnêtement, moi, je préfère avoir ce discours. Mais je sais que c'est un beau métier. Bon, moi, j'ai toujours enseigné à fac, c'est un très beau métier. Hein, et tous les collègues, les jeunes que j'ai formés ou les collègues que je vois enseignants, ils trouvent ça admirable. Mais quel boulot, hein, quel boulot.
Quel boulot ?
Peut-être laisser.
Ouais, allez-y. Allez-y.
Oui, je vais quand même réagir sur ce que vous avez dit, que je suis désolée, le CAPES ne suffisait pas de s'y présenter pour l'avoir.
Non,
je pense que c'est entièrement faux. Non, non, mais faites quand même attention à ce que vous dites, je suis désolée, ce n'est pas vrai.
Non, je vais caricaturer.
Et en soi, ce qui est un petit peu décourageant là-dedans, c'est le fait qu'on n'ait pas le concours. Par contre, on est quand même bien content de nous sous-rémunérer pour faire des remplacements. Ça, je pense quand même qu'il faut le souligner.
Oui.
Parce que même en ayant un master,
oui.
Je suis désolée, à Poitiers, on ne nous paye pas niveau master. Hein, donc, on est payé niveau licence. Donc, de ce côté-là, on est quand même très content de nous avoir pour faire les remplacements, même à l'année,
bien sûr,
hein, parce
bien
que
sûr, bien
voilà.
Sûr.
Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont quand même pas très claires, parce
oui,
que on pourvoit pas la totalité des postes. Par contre, on sait très bien qu'on retrouvera ces gens-là pour faire les remplacements, et donc on le coûtera beaucoup moins cher. Donc voilà. Et par contre, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé du C2I2E et du CLES 2 pour valider le concours.
Alors, attendez. D'accord, d'accord. Parce que non, mais parce que j'étais très général. Hein. Voilà.
Oui.
Non, mais je veux bien en dire quelques mots.
Ouais.
Et le début de votre intervention, évidemment, je caricaturais pour les concours, hein, mais je sais bien que
oui,
tous ceux qui ont eu le concours sont des étudiants valeureux et souvent parmi les meilleurs étudiants de nos licences qui préparent le concours.
Ah oui,
ont...
cinquième, hein, troisième
oui.
même.
Oui.
Du master.
Mais ce que je veux dire, alors le problème que vous abordez, moi, je me suis limité à la formation initiale, mais je partage tout ce que vous dites. Et donc, c'est que avec les masters, avant, bon, on préparait le concours, on l'avait, tant mieux on enseignait, on ne l'avait pas, point final. Alors, on pouvait se dire, il a perdu un an, deux ans, ok. Maintenant, il fait le master, donc il fait deux ans d'études, il a le concours magnifique, c'est plié, on n'en parle plus. Et ceux qui n'ont pas le concours, eh bien, ils ont, et qui ont le master, ils ont une formation, et donc les services, l'institution se dit, ces gens-là, finalement, ont une meilleure formation que n'importe quel étudiant, puisqu'ils ont suivi deux années de formation pour devenir professeur. Et comme on manque de professeurs, hein, parce que les postes ne sont pas tous pourvus, parce qu'il y a insuffisamment de nombre de postes au concours, c'est pour ça que tout à l'heure, je ne cautionnais pas la baisse des postes, hein, mais dans bien des disciplines, c'est insuffisant, eh bien on fait appel à ces jeunes-là, hein, qui ont une formation identique à tous ceux du master. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas eu le concours. Mais vous savez, entre le 128e, quand il y a 128 postes, et le 129e, il n'y a pas beaucoup de différence. Eh bien, ceux-là, on fait appel à eux au niveau du rectorat, mais à Poitiers comme n'importe quel rectorat. Hein. Et donc, le rectorat nous demande des listes, etc. Et donc, ces personnes-là vont faire des remplacements. Hein, et évidemment, ne sont pas payées au niveau master. C'est ce que vous disiez. Tout à fait. Mais vous avez... C'est parce que je n'avais pas abordé ça, mais je ne le conteste pas. Maintenant, vous parlez du C2I2E et du CLES 2. Bon, bah, je suis allé dans le détail à la fois du concours et ce qu'il faut pour devenir, une fois qu'on a le concours. Bon, pour le professeur des écoles, il faut nager le 50 mètres. Il y a plein, tout un tas de prérequis. Hein. Et depuis cette année, on a ajouté deux prérequis. C'est la certification informatique Internet appliquée à l'enseignement, hein, C2I2E. Donc, c'est maîtriser l'outil informatique, mais dans une application pédagogique. Hein. Pas simplement faire du Word. Quoi. Bon, ça, c'est normal. Hein. Et ça, c'est travaillé dans tous les UFM depuis 10 ans, parce que c'était dans l'air du temps, même si ce n'était pas obligatoire. Maintenant, la certification en langue étrangère, c'est pas stupide en soi de maîtriser une langue. Mais on a demandé, hein, la masterisation au maître de la recherche, c'est pas stupide. Il faut voir aussi jusqu'à quoi, à quelle dose, etc. Mais là, on a demandé le niveau B2. Hein. En gros, je crois, c'est la maîtrise, pas loin de la maîtrise du CAPES d'anglais. Hein. Voilà, de l'écrit d'anglais pour le capétien d'histoire géo, le professeur d'école, capétien de maths. Bon. C'est de la folie. Hein, tout à fait d'accord. Hein. Surtout que, je veux dire, c'est pas en deux années de master, que ce soit à l'UFM ou à la fac de sciences pour le CAPES de maths, qu'on va avoir ce niveau-là. Parce qu'on sait tous le niveau en anglais. Bon, il est très bon dans la fac de lettres et langues pour ceux qui font des études d'anglais. Le reste, c'est utile, on s'améliore. Mais bon, on peut avoir des doutes sur l'amélioration du niveau au sortir du L3 par rapport à celui qu'on avait en terminale, hein, en anglais. D'accord ? Parce que comme ce n'est pas une matière principale, bon, on prend ça un peu... Et donc, mais cette exigence était stupide, mais ça a été revu. Hein. Ça a été revu parce que maintenant, il y a tout un tas d'équivalences et finalement, il suffira d'avoir eu la moyenne au master en anglais pour que ça vaille... Alors, vous voyez, Le CLES niveau 2, forte exigence, c'était stupide, mais là, on remplace par cette force exigeante par quelque chose qui ne veut rien dire. Il suffit d'avoir eu au moins 10 à 20 heures d'anglais en master et ça fera le truc. Là aussi, on aurait mieux fait de dire, on a mis la charrue avant les bœufs, on va réfléchir et on bloque cette réforme. Faut y aller vert, mais essayons d'y aller lentement. Et là, on met des équivalences qui ne veulent rien dire. Vous parlez de quel master ?
En master mathématiques, enseignement et formation. Il n'y en avait pas l'année dernière, il n'y en avait qu'en M1.
Bah, si, si, si.
Et puis, on n'en avait pas l'année dernière.
Il y en a eu en M1, mais est-ce que l'année dernière, vous étiez en quoi, vous ?
En M2.
Ah, bah, il n'y en avait pas en M2, bah, ouais, bien sûr.
Donc, du coup, maintenant, on a un master, mais on n'a pas l'équivalence. Et
non,
du coup,
non, mais je suis d'accord avec vous.
Et maintenant, comment fait-on, quand même ? Parce que c'est le même problème pour l'interne. Donc, c'est pareil.
Non, je sais bien, je sais. Cette année ?
Bah oui.
Oh. Ah oui, parce que vous avez pas. Non, mais attends, soyez rassurés. Parce que ça, c'est remonté, il y a l'UFM d'Aix-Marseille, où ils n'avaient pas mis d'anglais dans le master PE. Aussi bien en M1 qu'en M2. Donc là, trois jours après, donc je pense que mon collègue de l'UFM a dû crier très fort, et puis d'autres collègues étaient dans le même cas. Trois jours après, sur le site web du ministère de l'Éducation nationale, on a rajouté la moyenne en anglais, quel que soit le cursus. Il suffit d'avoir eu en L1 une fois 10, bingo, c'est gagné. Vous voyez, donc, comme quoi, c'est tout stupide. Donc, c'est passé des deux années master à, dès le début, dès le L1. Oui, mais oui, c'est une foire, ce site du ministère, c'est une foire aux questions, on rajoute des lignes tous les trois jours. Donc. D'après moi, il ne faut pas ouvrir ce site, il faut attendre le mois de mai. Comme ça, vous aurez à peu près la version définitive.
Oui. Non, c'est pas une question, c'est plutôt par rapport au CLES 2. De toute façon, ils ont même dit que le M1 compte aussi, c'est pas que le M2. Donc, vu qu'on a des cours de langue dès le M1, au final, si on a 10, c'est bon. Et honnêtement, les profs font en sorte qu'on ait 10. Parce que le CLES 2, moi, je viens d'une licence d'espagnol. Ouais. C'est même pas le niveau maîtrise, c'est le niveau licence. Moi, j'en ai fait des exercices et c'est vraiment mon niveau, c'est très, très dur.
Oui, bien sûr.
Et honnêtement, les profs de l'UFM font en sorte qu'on le valide. C'est comme le C2I2E. Hein. Les profs d'informatique nous font faire des exercices, tout ça, pour le valider. Et ils font en sorte qu'on ait 10. Quoi. Oui. Ils sont pas bêtes, ils savent bien que...
Mais je suis d'accord avec vous. Mais ces profs ont eu la consigne, mais je pense qu'ils y auraient pensé de même. C'est-à-dire qu'il faut avoir la démarche qu'on a eue pour le C2I2E il y a 5 ou 6 ans quand on démarrait. Bon, on était très laxiste, on y est allé. Et puis, ils savent bien, depuis 2 ans, que ça allait tomber, être exigé. Donc, il y a une certification avec des questionnements qui sont élaborés au niveau national avec des ressources. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas simplement du copier-coller. Hein. Et le CLES 2, bon, ça tombe à l'eau cette année, ça va tomber pendant 3-4 ans, mais un jour ou l'autre, on demandera une exigence, peut-être niveau B1, un truc comme ça. Et donc, il faut s'y préparer, il ne faut pas attendre que le texte tombe. Et donc, ça va monter en puissance.
Et pour les secours, on a bien 4 semaines.
Merci. Vous êtes en quoi, vous ? Mais, PE ?
Oui, Yves Jean, je suis le doyen de l'UFR de sciences humaines et arts, et je suis enseignant et chercheur. Le thème de ce soir est un thème fondamental. C'est pas seulement un thème fondamental parce que les parents des élèves concernés, que les grands-parents sont concernés. C'est un thème fondamental pour la société. Et c'est un métier extraordinaire, ce métier d'enseignant, enseignant-chercheur. Et ceux qui sont enseignants et qui ont une pratique d'enseignant savent que c'est extraordinaire car on permet aux autres d'acquérir des notions pour comprendre un monde en mouvement et un monde complexe. Mais un mot sur le contexte, quand même. Je pense que ce gouvernement a deux responsabilités fondamentales. Il a cassé le système de santé et encore plus le système d'éducation. Les deux étudiantes qui sont intervenues révèlent les turbulences dans lesquelles sont tous ceux qui veulent se lancer dans ce métier. Je rappelle, ce sont des chiffres clairs, ce n'est pas 10 000 ou 16 000, c'est 16 000 suppressions d'enseignants par an depuis que Nicolas Sarkozy est président de la République. Ces deuxièmes éléments, La première intervenante a raison. D'abord, c'est plus d'années de stage, et ça a emmené des futurs collègues dans le mur. Moi, j'ai un collègue, il se trouve que je suis élu à Poitiers, et un des jeunes élus, c'est Jules Aimé, qui est prof d'histoire géo, à présent à Butserolles. Jules, il me dit, mais c'est un garçon super, hein, c'est un bel enseignant. Sauf qu'il me dit, là, j'ai tenu le coup en préparant mes 18 heures de cours toutes les semaines jusqu'aux vacances de la Toussaint, et là je ne m'en sors plus. Et puis il me dit aussi, la crise, elle entre dans la classe, et être enseignant, c'est un très bon prof d'histoire et de géographie, mais c'est aussi appréhender tous les problèmes, y compris à Butserolles. On n'est pas dans un quartier, dans une zone difficile, mais tous les problèmes sociaux entrent dans la classe, et il me dit parfois, je ne sais pas du tout comment le cours va se terminer. Donc comment on forme les futurs collègues, parce que ce sont des collègues que l'on forme, à cette question de la transmission des connaissances. C'est un enjeu de société fondamental. Face à cela, la masterisation, je crois que Mario l'a dit, tous, hein, je suis président de la conférence des doyens de lettres et de sciences humaines, je travaille beaucoup avec la CDIUFM, la conférence des doyens de sciences, tout le monde est pour une meilleure formation des enseignants, et à Bac plus 5, c'était une bonne proposition. Mais pas cette masterisation-là, pas une masterisation où Mario l'a rappelé, le concours des PE est en septembre, je suis président du jury de l'agrégation, donc là, les dates n'ont pas changé, c'est bien, mais quand on passe le CAPES, on passe le CAPES au mois de novembre, au début, en plein milieu du M2. Donc il n'y a aucune cohérence pédagogique quand on veut construire le M1 et le M2. Donc revenons, il y a unanimité de tous les parlementaires aujourd'hui, y compris de l'UMP, revenons sur une date d'admissibilité à la fin du M1. Les étudiants qui sont admissibles continuent en M2 et passent le CAPES ou l'agrégation. Et ceux qui ne sont pas admissibles, soit ils font un autre M2, soit ils renouvellent et ils repréparent. Et là, je crois qu'il y a aujourd'hui, Mario avait raison, quel que soit le président, on reviendra sur cette question-là. Mais il faut le dire ici pour un peu rassurer aussi les futurs étudiants qui veulent devenir enseignants. Par ailleurs, l'étudiante a raison de dire que quand même derrière, il y a une volonté de casser le statut des enseignants du secondaire. Il y a la volonté de recruter des enseignants sur des durées déterminées. Et c'est un des enjeux fondamentaux de cette élection. Remettons la jeunesse au cœur de la société. Et là, cette réforme-là n'a pas mis la jeunesse au cœur de la société. Alors, quelques mots sur mon collègue Laurent Carouet, qui est président du CAPES d'Histoire Géo. Ils me disent, comme dit Mario, 5000 candidats au CAPES d'Histoire Géo il y a 2 ans, 4000 l'an dernier, 3000 cette année. Donc, il y a un effondrement du nombre d'étudiants qui passent le CAPES d'Histoire Géo, c'est vrai en maths, c'est vrai dans tous les concours, et dans le même temps, le nombre de postes, il est tellement bas qu'il ne bouge plus. Donc, il y a plus de possibilités aujourd'hui d'avoir les concours qu'hier. C'est paradoxal, mais c'est cette situation. Excepté, et Mario a raison d'insister sur l'importance des médias, que toutes les semaines, on ne met pas l'accent sur l'aspect noble de ce métier, on met toujours l'accent sur les problèmes de tel ou tel enseignant, etc. Et donc, il y a une image négative de ce métier dans la société qui est mise à l'index. Les salaires sont faibles. Voilà, tous les rapports européens montrent que les salaires des enseignants en France sont parmi les plus faibles. Là aussi, il faut rémunérer les enseignants. Je comprends bien qu'on dise 3 mois avant une élection, ah oui, vous allez gagner plus. Voilà. Il y a eu aussi un beau slogan, hein, travailler plus pour gagner plus. Je pense que les uns et les autres ont vu ce qui s'est passé, donc faisons attention aux promesses. Et puis, il faut le mettre en œuvre. Quand on est au président, bon, on n'attend pas septembre 2012, mais on peut prendre la décision dès à présent. Donc, il y a nécessité. C'est un enjeu sociétal fondamental, cette question. On forme les futurs enseignants qui vont former les générations futures. Donc, quelle formation des enseignants? La CDIUFM, hein, la conférence des doyens, un des directeurs des IUFM en France vient de faire 22 propositions, qui sont des propositions très concrètes, très sérieuses sur une nouvelle formation des enseignants. On a là une base de travail au niveau national qui va permettre de rassurer tout le monde et de préparer une nouvelle formation. Mais j'ai envie de dire ce soir, il y a des opportunités plus importantes aujourd'hui qu'hier de passer les concours. A priori, on va aller vers des formations plus cohérentes et de meilleures formations demain, parce que cette masterisation, elle va être réformée. Donc, c'est plutôt un message optimiste, malgré un contexte difficile, je dirais, concernant ce métier. Mais c'est vrai que c'est révélateur des deux propos des étudiantes. Il y a des turbulences telles depuis 3, 4, 5 ans qu'il y a un effondrement du vivier. Je termine sur une proposition faite à la commission Gros-Perrin au mois de juin, quand on avait été auditionné avec Alain Trouillet, l'ancien président de la CDUS, c'est de dire on est dans la situation, je dis cela pour les anciens comme nous, ceux qui sont autour de la table, on est dans la situation où René Monory, quand il était ministre de l'Éducation, ou Lionel Jospin, quand il a été ministre de l'Éducation, face à l'effondrement du vivier, eh bien, ils ont doté les candidats au concours de moyens financiers, c'est-à-dire de bourses dédiées, pour remotiver les bons étudiants que l'on a pour qu'ils passent le concours. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Il faut que pendant quelques années, on dise à ceux qui vont passer les concours, eh bien oui, vous avez 500, 600 euros par mois, parce qu'autrement, si le vivier continue à s'effondrer, on va être en grande difficulté, mais d'un point de vue social.
Et avant de laisser la parole à la salle, je voudrais rajouter une chose par rapport à ce que vient de dire Yves. Et cette situation que je partage comme tes arguments est encore plus désastreuse d'un facteur énorme pour tout ce qui est les concours pour l'enseignement professionnel et technologique. Parce que toutes les difficultés que vous avez, elles sont les mêmes, plus des spécificités qui rendent difficile, voire impossible pour les candidats potentiels à ces concours-là, parce que ces candidats étaient une population très différente de l'étudiant classique, souvent des personnes en reconversion, des personnes au chômage ou voulant changer d'activité professionnelle, etc. Et donc, autrefois, il y avait des reconnaissances, quelqu'un qui avait un DUT et puis 5 ou 10 ans d'activité à un certain niveau pouvait passer le concours. Maintenant, avec un master, la personne à qui on donne l'équivalent du L3, je veux dire, il est difficile de faire ça par alternance, parce que c'est très exigeant. Je veux dire, c'est un diplôme, donc et quelqu'un qui n'a pas le M2, même s'il a le concours, ça lui sert à rien. Il pourra l'encadrer, mais ça, il ne pourra pas l'utiliser. Donc, il y a toute une catégorie de concours, et quand on voit qu'on dit avec juste raison que le problème en France, c'est un problème de tissu industriel mourant, etc., etc. Et quand on voit qu'on ne se préoccupe pas et qu'on est en train de... Le vivier s'effondre, mais il tend vers zéro. Pour les lycées professionnels de discipline générale, j'entends maths, sciences, histoire, géo, discipline technologique, capette de techno, génie méca, ça n'existe plus depuis 2 ou 3 ans, etc., etc. Et donc, si on ne forme plus d'enseignants, ça veut dire qu'on n'aura plus d'étudiants là-dedans, et donc on n'aura plus de personnes, d'ouvriers qualifiés, de techniciens dans les petites industries. Donc c'est très lourd de conséquences. Très lourd de conséquences.
Du coup, je vous rejoins, c'est en effet sur les messages qu'on porte sur les enseignants, qui sont des messages négatifs, où on fait ressortir en fait que ce qui est difficile, ça reste un métier. Même où on a des satisfactions.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais c'est jamais assez souligné. Oui.
Oui, c'est que, c'est que le métier en lycée professionnel est parfois difficile, souvent, mais donne de grandes joies dans certains établissements. À Réaumur, par exemple, il y avait un passionné d'aviation qui a amené ses élèves à construire un avion. Ceci dit, peut-être que ce qui se met en place, c'est le développement de l'apprentissage, aussi bien dans les CFA qu'à l'éducation nationale, pour la formation professionnelle des jeunes.
En particulier, vous n'avez pas parlé des CFA. Est-ce que dans les CFA, ce sont des enseignants ou ce sont des employés du ministère du Travail ou qui enseigne dans un CFA? Voilà, c'est ce que je me demande, puisque ça se développe énormément, le CFA.
Alors là, je vais sûrement être très vague, mais pour l'instant, beaucoup d'enseignants en CFA sont des contractuels qui n'ont pas forcément un niveau licence. Et donc, pour ces personnes-là, donc maintenant, il va falloir passer par... ça veut dire que personne de statut précaire n'ayant pas les diplômes requis aujourd'hui... il va y avoir une arrivée de personnes diplômées, et tous ceux actuellement en poste, c'est craignos, quoi. C'est craignos pour leur devenir, totalement. Et comment ces personnes-là valider leurs compétences par un master, c'est pas facile. Et pareil, un master par alternance, je veux dire, c'est pas... Alors, il y a eu des tentatives.
C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. On va chercher des gens qui n'ont pas le concours, mais le master pour vacataires, etc. Et puis, il y a eu des tentatives, dès la rentrée de septembre 2011, là, de master formant des futurs enseignants, ce que je vous ai présenté, en alternance. Hein, parce qu'on s'est dit, bon, le ministère a dit, là, il y a un vivier, bon, on ne va pas y arriver. Et puis, plaçons des gens en poste, master par alternance. Mais c'était, nous, on vous prend... les deux tiers du temps, la personne dans un bahut, et puis vous laissez un petit tiers de votre formation, là, vous choisissez ce que vous voulez, et puis voilà, il va le prendre comme ça. Une formation par alternance, ça se construit. Sans être un grand spécialiste de l'ingénierie de formation, je veux dire, ce que tu mets pour accompagner quelqu'un qui est en boulot le reste du temps, c'est pas ce que tu mets à un étudiant qui est là toute la semaine, quoi. Donc, tout ça, c'est à construire. Et donc, il y a des trucs qui sont mis de façon précipitée dans quelques académies. Mais mes collègues du UFM me disent c'est catastrophique, ça se casse la gueule. Les étudiants, t'en as les deux tiers qui abandonnent, quoi, parce que c'est de la folie. Et ils ne sont pas formés comme ça. C'est-à-dire, ça se pense. Et donc, moi, je suis pour qu'on mette ça en place. Mais je veux dire, ça se réfléchit. C'est une formation qui doit se construire par rapport au public et à ses besoins, quoi. Mais les CFA, c'est un réel problème, hein. Un réel problème. Je ne suis pas spécialiste, il y a une collègue à l'UFM qui travaille beaucoup là-dessus. Oui, c'est un réel problème.
Et ça se développe aussi à l'éducation nationale.
Oui. À l'université, ça tend à se développer aussi, la formation par alternance. Hein. Bien sûr.
Se développe dans tout. Oui.
Comme la formation tout au long de la vie est naissante, mais c'est quelque chose qui va... Bien sûr, bien sûr.
Et dans l'éducation nationale, d'ailleurs, elle centre ses niveaux de formation au niveau Bac plus 2, plus largement.
D'autres
c'est
questions.
Pas un problème d'ailleurs.
D'autres questions?
Donc, moi je suis étudiant en master 1 d'enseignement et formation en discipline espagnole. Donc, on nous a vendu un master pour qu'on ait un diplôme, bon, ça très bien. Sauf que l'année prochaine, si j'ai mon master et que j'ai pas mon CAPES, qu'est-ce que je fais avec ce master?
Une autre question, ça. Alors, je pourrais vous dire, mais ça ne va pas vous faire plaisir et pas forcément répondre à votre question. Avant qu'il y ait des masters, vous aviez des collègues qui préparaient le CAPES d'espagnol. Ils passaient un an à le préparer. Et quand ils ne l'avaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient à la fin de cette année? Ils essayaient de monnayer la licence qu'ils avaient, quoi. Donc, c'est ça. Maintenant, on peut supposer que, ayant fait deux années de master, vous n'avez pas le CAPES d'anglais, d'espagnol. Je pense que vous pouvez valider ces deux années-là par une équivalence à un M1 recherche en espagnol si à Saint-Poitiers et rentrer directement dans un M2. Vous n'aurez perdu qu'une année. Je pense. Enfin, je veux dire, si les collègues ne sont pas trop stupides, et je ne pense pas qu'ils le soient, enfin, moi, c'est ce que je ferais. Voilà. Hein, ou vers d'autres cursus qui vous donneraient l'équivalent d'un M1 où les compétences que vous aurez acquises ne seraient pas inutiles. Voilà. Mais autrement, après, sur le marché du travail, je veux dire, pour la traduction des choses comme ça, ça doit être jouable. Vous pouvez sûrement le monnayer. Bon. Mais on ne peut pas vous signer un papier comme quoi vous allez être embauché pour faire ça à 3 000 euros. Quoi. Ben, ça, c'est toujours les aléas de passer un concours, une formation avec un concours à la fin.
Mais justement, avec le master, là, donc le master enseignement qui a été mis en place, on ne voulait pas ouvrir sur d'autres... On donne aussi d'autres possibilités aux étudiants s'ils ne réussissent pas leur concours.
Oui.
Non, en termes d'orientation. Mais la formation je pense à plein d'autres choses.
J'ai oublié dans la réforme, c'était écrit, mais quasiment textuellement, c'était écrit, ces masters doivent préparer à d'autres métiers que l'enseignement aussi. Ils n'ont pas mis d'abord, mais c'était pas loin. Je veux dire, vous imaginez, il faut faire de la recherche. Alors, ils n'ont pas dit de quoi passer une thèse dans les 6 mois, mais bon. Il fallait préparer au concours, ils n'ont pas oublié de le dire quand même, et préparer à d'autres débouchés. La folie, quoi. Alors, je sais que dans les CAPES, on ne le fait pas, hein, parce que ce n'est pas possible. Alors, on le fait au niveau du Master PE, on a tenté, on a mis... Attendez, laissez-moi. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre quelques spécialisations, mais comme le Master PE, c'est moins pointu disciplinairement, mais il y a la polyvalence, et donc il y a la pluridisciplinarité, si vous voulez, on essaie de spécialiser... pour que ceux qui auront le concours, ça ne leur soit pas inutile, ça leur donnera des compétences complémentaires, et ceux qui n'auraient pas le concours,
Ben, peut-être ils pourraient monnayer ça dans des collectivités territoriales, etc. Mais c'est que du bricolage, ça ne pourrait être que du bricolage, bien sûr.
D'autres questions ?
La quoi ?
Au niveau des semestres.
C'est spécialisé, là.
C'est très spécialisé, ouais, ça. Hein. C'est ça. Pourquoi ça, si c'est pas discret, ça vous intéresse ? Pourquoi ?
Moi, je suis en L3 Sénat à l'université.
L3 Sénat, excellente licence. Oui, c'est bien. Écoutez, de toute façon, une fois que vous êtes en L3 Sénat, vous voulez sans aucun doute rentrer dans un master PE. Donc, quel que soit ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre comme formation, vous allez y venir.
Pas forcément dans cette académie.
Mais on va faire des. Moi, j'irai faire une intervention au mois de mars où je vous détaillerai tout ça parce que je suis pas sûr que ça intéresse là, les collègues d'aller dans le détail.
Surtout spécialisé.
Mais hein?
Sur le site de l'UFM.
Oui, elle est sur le site de l'UFM.
Sur le site de l'université de Poitiers aussi.
Rapidement, je vais vous dire ce qu'il y a, ça c'est le concours. Voilà, les yeux, il y a une recherche. Hein. Donc voilà un semestre, hein, le premier semestre. Il y a une recherche. Hein. Et donc, ce sont des disciplines, des sciences humaines. Hein. Et là, c'est que de la psychologie. D'accord ? Avec des séminaires et puis un travail de recherche. Ensuite, une UE qui comporte les deux disciplines fondamentales, français et maths. Une UE qui comporte toutes les autres disciplines, histoire, géo, sciences, EPS, langue vivante étrangère, etc. Et une dernière qui s'attache aux savoirs transversaux. Sciences humaines et sociales pour l'éducation. Psychologie de l'enfant, évolution, etc. Bon. Et évidemment, comme le public est très hétérogène, donc au niveau disciplinaire, les UE, la seconde et la troisième, là, on ne peut pas aborder la discipline en faisant de la discipline, parce que uniquement de la discipline, quelqu'un qui vient d'un L3 lettres, si on faisait des maths, uniquement des maths, même si on ne demande pas un très haut niveau pour être professeur d'école, il serait vite dépassé. Donc, on associe toujours l'entrée disciplinaire avec la didactique de la discipline. Ça passe mieux, etc. D'accord ? Voilà pour le S1. Et il me semble que l'ensemble des semestres est construit de la même façon. Hein. Donc, là, c'est faux. Là, le second semestre, c'est la socio. Hein. UE recherche, sociologie. Hein. Donc, il y a des séminaires et puis... parce que les méthodologies de la recherche, on pourrait se dire, être chercheur, bon, quelle que soit la discipline, c'est toujours pareil. Oui, bon, faut se creuser la tête, mais il y a des méthodologies. Et je sais, sans être un spécialiste, en sociologie, on travaille beaucoup sur les statistiques. Hein, donc l'utilisation des statistiques en sociologie n'a rien à voir avec l'utilisation des stats en maths. Donc vous voyez, c'est une structure comparable avec les stages qui sont en plus ici. Et puis on a quelque chose... de comparables au niveau du S3 et du S4 dans le M2. Voilà. Mais vous aurez plus de détails avec sur notre site, ça y est, ouais. Très détaillé. Et vous pouvez passer à l'UFM quand vous avez un petit moment libre. Les secrétaires vous donneront tout élément. Moi et mes collègues, on répondra avec plaisir aux questions.
D'autres questions ? Plus personne n'a d'interrogation.
Oui, j'aurais une petite question justement par rapport à cette formation et surtout à cette masterisation. Personnellement, je suis en M2EF Histoire-Géographie et en fait, j'ai plusieurs amis qui se trouvent en master recherche qui auraient envie de, pourquoi pas, se mettre en master enseignement-formation. Ouais. Et justement, je trouve que c'est un gros problème, ce fait que on demande un bac plus 5. On peut faire un master recherche ou un master enseignement formation. Personnellement, je trouve que le master enseignement formation est bien mieux pour se préparer au métier d'enseignant. Donc, à ces personnes-là, justement, je ne sais pas
heureux
vraiment
quoi leur
répondre.
Heureux de vous l'entendre dire, mon ami. Heureux, très heureux. Oui.
Ah, il y a quelques défauts, mais bon, ça se corrige avec le temps.
Et il y en a moins cette année qu'il y en avait l'année dernière.
Oui, c'est sûr.
Je vais vous le dire. Donc,
Et donc, le problème voilà, que, oui, qui se pose, c'est leur demander, oui, est-ce que véritablement c'est mieux pour eux de faire le CAPES, ou est-ce que plutôt ce serait mieux qu'ils s'orientent, qu'ils fassent un master recherche jusqu'au bout, et qu'ensuite ils s'orientent plutôt vers l'agrégation.
Oui, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il faut un master et le concours pour devenir enseignant. Mais ce que je n'ai pas dit, il faut n'importe quel master. Ce n'est pas forcément un master qui prépare aux métiers d'enseignant. Donc évidemment, quelqu'un qui fait un master recherche, il passe le concours. Et tout ce qui est CAPES, le concours est quand même globalement très disciplinaire. On ne demande pas des compétences professionnelles à l'oral, beaucoup moins que le concours PE. Donc quelqu'un fait un master recherche parce qu'il se dit, je tenterai le concours, si je ne l'ai pas avec mon master recherche, je peux monnayer ça en continuant sur une thèse. Mais évidemment, s'il a le concours, quand même, il va lui manquer quelques billes. Quand il va être stagiaire, ça risque de lui faire tout drôle. Hein. Ouais.
Oui, c'était une remarque très pertinente. Hein. Merci de ce propos. Je crois que pour devenir enseignant, il faut faire ce choix du master éducation et formation. Pourquoi ? Je reviens à mon collègue Jules, là, qui est à Buxerolles. Il me dit heureusement que j'ai eu des cours de sociologie et de psychologie pour mieux comprendre l'hétérogénéité des élèves qui sont en face. Donc il faut qu'ils soient solides en termes de discipline, ça c'est incontestable, mais ça ne suffit pas pour être un bon enseignant d'histoire et de géographie. On peut être un très bon prof de maths, être un très bon mathématicien et avoir des difficultés à être enseignant de maths. Donc, je pense que c'est une erreur de faire un master recherche en histoire et ensuite de passer le CAPES d'histoire et de géographie. Je rappelle qu'il y a deux disciplines, je suis attaché aux deux, et elles sont de façon équivalente dans le concours. Donc, on ne peut pas être un bon prof d'histoire géo quand on a seulement un master recherche en histoire et qu'on envisage éventuellement de faire un DU, c'est-à-dire un diplôme universitaire de 200 heures en didactique de l'histoire géo, parce que c'est un peu la stratégie de certains et c'est pas le bon choix. Ça veut donc dire au moins qu'ils fassent le M2 du MEF une fois qu'ils ont leur M2 recherche.
Oui, c'est ça, ça serait...
Mais évidemment, on est là quand même sur l'héritage, je dirais très français, que l'on traîne depuis Ferry, mais donc depuis la fin du 19e, entre la façon dont on prend au sérieux les sciences de l'éducation, la sociologie de l'éducation. C'est-à-dire qu'on est un pays qui privilégie les approches disciplinaires au détriment de la didactique, au détriment, alors pas tous les collègues, pas toutes les disciplines, mais quand même, il y a cette tendance longue et lourde, ce qui n'est pas le cas au Québec, ce qui n'est pas le cas en Belgique, ce qui n'est pas le cas au Portugal, où les sciences de l'éducation sont nobles, la sociologie de l'éducation est noble. Et dans notre pays, on a beaucoup de difficultés à prendre au sérieux ces disciplines qui sont cependant, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais de plus en plus importantes pour essayer d'être le meilleur enseignant possible, c'est-à-dire pour essayer de comprendre la complexité des élèves qui sont dans la classe, dans leur diversité, dans leur diversité de leurs problèmes sociaux, psychologiques. On n'est pas, quand on est enseignant, on n'est pas garagiste. Voilà, donc on travaille avec des individus qui sont complexes et qu'il faut essayer de connaître. Et on ne déverse pas des connaissances, on essaie de faire que les élèves s'approprient les connaissances et les méthodes. C'est un métier passionnant, mais qui nécessite cette approche pluridisciplinaire. Et donc faisons attention à une approche strictement disciplinaire pour devenir enseignant. Je ne suis pas très favorable à ça.
Mais un autre problème de la réforme, on entend ça, ça m'y fait penser, et votre question, c'est toutes les prépas agrègues. Parce que les prépas agrègues existent depuis la réforme, existaient avant la réforme. Hein. On passe l'agrègue, donc c'est en dehors des masters enseignement et formation. Ce qui est tout à fait normal, parce que les exigences du concours sont autres par rapport au CAPES, tout à fait. Mais avant cette réforme, le lauréat d'une agrégation passait une année de formation dans un UFM où il avait une formation professionnelle conséquente. Maintenant, une fois qu'on a l'agrégation, on est stagiaire pendant un an, mais avec une formation professionnelle qui est réduite à peau de chagrin, comme la formation professionnelle de n'importe quel lauréat de concours. Et donc, ils sont un peu dans la situation, exactement dans la situation de quelqu'un qui aurait un master de recherche, qui serait passé par un master de recherche parce qu'il n'a aucune connaissance de quoi que ce soit en pédagogie ou en didactique. Donc ça risque d'être très dur pour les agrégés d'enseigner aussi avec cette réforme.
J'aurais également une autre question. Ouais. Le fait justement qu'on nous demande d'avoir à la fois un master, ouais, donc, et aussi donc, avoir le concours, comme j'entendais un petit peu cette proposition de passer au moins l'épreuve d'admissibilité à la fin du M1, puis ensuite l'oral en M2, est-ce que ça ne va pas aller à ce moment-là vers la fin peut-être du concours et seulement l'obtention du master qui suffira pour être professeur? C'est une question que je me pose, parce que c'est vrai que c'est quand même assez bizarre d'avoir à passer à la fois un master et un concours. Donc est-ce que, à terme, ça ne veut pas dire qu'il y en a...
On pourrait ajouter à cette question que la France est un des pays qui pense recruter de bons enseignants en faisant passer un concours. Ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe, etc. Est-ce que vraiment le concours garantit des bons enseignants?
Mais
poser la question à table.
Mais selon moi, la place du concours actuellement laisse penser de façon bien plus évidente que c'est la mort des concours, en le mettant au niveau du M2, parce qu'on ne voit plus à trop la différence. Voilà. Mettre l'écrit en fin de M1 donne une place plus importante à la valeur qu'on donne au concours. Et serait l'avantage aussi de ne conserver en M2 que les admissibles et pas emmener un flot de population pendant 2 ans avec un certain nombre qui n'auront jamais le concours. Hein. Mais tout ça, ça permettrait donc d'anticiper et d'avoir une certaine gestion des flux, etc. Et l'idéal serait aussi de se connaître le nombre de postes par anticipation pour n'accepter qu'en M1, je ne sais pas moi, 1,5 ou 2 fois le nombre de postes offerts. Et éviter que
faire des numéros clausus, quoi.
Voilà, et ça, c'est pas idiot. Moi, très honnêtement, je vais vous dire ma façon de penser. On était plusieurs à CDUFM, on a voulu mettre ça en place, et puis bon, beaucoup sont sur encore la défense, au moins des UFM, si ce n'est des écoles normales parmi les directeurs, donc bon. Ouais, mais je me dis pourquoi les étudiants en médecine sont pas dans la rue. Concours très sélectif, parce que le concours est en fin de première année. Vous le mettez à bac plus 5, vous verriez que ça remuerait un peu dans les rues de Poitiers et partout où vous avez des CHU. Ouais. Là, on fait ça pour les enseignants, ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Eux, ils ont une sélection, c'est à bac plus 1. L'idéal, ça serait à bac plus 1. Hein. Première année de fac et à bac plus 1, boum, on sélectionne et après on forme de façon progressive et simultanée disciplinaire et compétences pendant 4 ans.
Mais sans pression.
Et voilà. Et donc là, mais ça veut dire qu'il faut anticiper et savoir que dans 4 ans, j'aurai besoin de tant de profs d'histoire géo. Enfin, on disait à table, s'il y a un truc qui est facile à suivre, c'est la démographie.
Ah oui, ça, c'est incroyable.
Il n'y a pas plus facile. Vous me faites bosser au ministère, je pourrais vous donner dans 10 ans le nombre d'enseignants qu'il faudra dans toutes les disciplines, c'est très facile. Donc c'est une volonté. Et on formerait à Bac plus 1, il y aura un concours. Hein, très très sélectif, mais les personnes qui n'auraient pas le concours, iraient vers d'autres L2, etc.
Et ensuite, on peut faire évoluer le concours. Je reviens à votre question qui est fondamentale. On peut faire évoluer le concours. Si l'admissibilité à la fin du M1, on peut en M2 avoir des étudiants qui travaillent en stage, etc., et qui, lors de l'oral, présentent un dossier qui est une réflexion pédagogique sur leur expérience. Et donc, on peut faire bouger le concours. Je suis favorable au fait de faire bouger le concours. Ça pourrait être intéressant, par exemple.
C'était juste une réflexion par rapport à ce que vous venez de dire. Effectivement, si on fait... si on commence des bac plus 1 à faire une formation, ce qui serait très bien, pédagogiquement, à former les enseignants. Mais si à la fin, on n'a pas de boulot... actuellement, c'est un peu indécis, on va dire ça comme ça. Donc, étant étudiant en master, on a tendance à se poser la question, est-ce qu'on va avoir du boulot à la fin ou pas, quoi. Parce qu'on entend justement... Il y a des suppressions de postes.
Oui, mais on a bien vu qu'il y avait une pyramide des âges et une démographie qui augmente dans les années.
Non, mais là, je veux dire, il y aurait une sélection à bac plus 1. Il y aurait... on prend 1,1 ou 1,2 ouais. fois le nombre de places nécessaires 4 ans après. Mm-hmm. Donc 90% des personnes auraient du boulot, un peu comme en fac de médecine, c'est-à-dire celui qui passe la première et la deuxième année, voilà, après il est formé tout au long, etc. Certains sont médecins, d'autres ont une spécialisation. Bon, après, on peut avoir différents jobs aussi au niveau. Tout peut être pensé. Mais,
puis
mais
ceux qui ne sont pas unis vont vers des passerelles.
Il y aurait peu de personnes qui, au bout de 5 ans, auraient passé 5 années à faire beaucoup de choses autour des sciences de l'éducation pour ne pas en vivre. Quoi. Voilà. Il faudrait anticiper, connaître les besoins en nombre de postes 4 ans avant. Et ça, c'est facile à faire. Ça n'a jamais été fait. Hein.
Est-ce que c'est possible?
Ah bah oui. Parce qu'on sait exactement la population qui rentrera en école primaire et la population qui, à 11 ans, ira en collège et qui est entre 11 ans et 17 ou 18 ans. Ouais, c'est très facile, ça.
Oui, sauf qu'on a des politiques éducatives. Mmh.
Qui... Et les politiques changent entre deux.
Il y a ça aussi, oui. Oui. Oui, c'est-à-dire que ça engage, tu prévois pendant 4 ans, ça engage oui, les successeurs et tout.
Mais c'est une idée très intéressante.
C'est une bonne remarque, je l'étais faite, j'avais oublié, mais ça, c'est vrai. C'est pour ça que peut-être c'est pas fait, oui.
Parce qu'il y a une personne sur deux à la retraite qui n'est pas remplacée. Donc bon, alors après, quand les politiques changent, c'est très intéressant comme projet.
Au niveau de l'éducation, une chose qui est certaine, c'est qu'il faut mettre des enseignants devant les élèves.
Ça, on est d'accord.
C'est indispensable. Donc, on est obligé de mettre des enseignants devant les élèves. Donc, il y a toujours du recrutement. Faut pas...
Et alors, une autre remarque, c'est que moi, j'ai une licence d'histoire-géographie. Et l'avantage, c'est qu'on nous rend assez polyvalents. Du coup, tant sur la culture générale que sur d'autres domaines. Donc du coup, ça apporte aussi l'avantage que si on ne veut pas être enseignant, on peut faire autre chose. On peut essayer de faire autre chose. Quoi.
La licence d'histoire-géographie, vous voulez dire?
Oui. Parce que si on fait ça à bac plus 1 après, comme vous l'avez souligné.
Oui, mais à bac plus 1, moi je dis, on fait une première année d'université disciplinaire. Là, on passe les écrits du concours qui seraient disciplinaires. Et après, on imagine tous les ans une partie professionnelle, hein, etc. Et donc, celui qui n'a pas la partie disciplinaire, eh ben, il continue. S'il ne veut pas repasser ce concours à bac plus 1, eh ben, il continue dans sa discipline. Il fera un L2, L3. Voilà. Donc, ça ne change pas grand-chose. Hein. Mais bon, ça, c'est un truc qui ne sera jamais accepté. Donc, c'est pas la peine de...
Il ne faut pas être pessimiste.
Et je voudrais juste rajouter une chose. Je vis dans une famille d'enseignants, donc, mais de professeurs des écoles. Et j'étais un peu choqué par le discours tout à l'heure d'une équipe pédagogique. Et en fait, je trouve qu'il n'y a plus aujourd'hui d'équipe pédagogique. Et on l'a vu le changement en 5 ans. Et que c'est une réalité quand même qui est difficile à voir.
Redites-moi ça, je ne sais pas bien.
Au niveau de l'équipe pédagogique.
Oui.
L'équipe pédagogique, il y en a vraiment, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. Au niveau des professeurs des écoles. Parce que c'est une pensée quand même qui est vachement... ils sont formés, ils n'ont pas le choix d'être plutôt individualistes dans leur travail et dans leur façon de travailler.
Non, je vous ai parlé tout à l'heure des attendus par rapport aux enseignants. Moi, j'ai une position de l'interne, sans être chef d'établissement, évidemment. Je crois que le chef d'établissement aurait sûrement mieux parlé que moi de ça. Mais il est certain que ce que vous entendez dans le discours courant, c'est qu'il est nécessaire qu'un enseignant se sente faire partie d'une équipe pédagogique.
Oui, mais il y a la réalité aussi, je pense.
Et la réalité, mais il y a aussi les attendus. C'est-à-dire qu'actuellement, est-ce qu'on peut faire un métier d'enseignant en étant une profession libérale, c'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est un peu caricatural ce que je vous disais là, parce que je crois qu'il y a très peu d'enseignants qui ne font que passer dans les établissements. Il peut y avoir ça dans les établissements de petite taille où ils ont des partages de services. Et de fait, ils passent d'un endroit à l'autre sans vraiment s'occuper ni du projet de l'établissement.
Oui, là, ça se comprend. Ouais.
Ouais. Alors pourtant, moi, j'en entends, j'ai pas mal d'exemples, pas mal d'amis qui se retrouvent dans cette situation.
Ah oui, bien sûr, les nouveaux en particulier sont sur des services partagés.
Mais je crois que des équipes pédagogiques en collège et lycée, ça vit encore un peu, peut-être moins qu'il y a 5 ou 10 ans, mais ça vit encore un peu. Alors en école, je ne sais pas, peut-être moins.
Peut-être moins. Des plus petites structures.
Oui.
Alors, est-ce que vous avez encore d'autres remarques, d'autres questions à porter?
Bonsoir. Je suis FS1, donc fonctionnaire stagiaire première année.
Donc, c'est quelqu'un qui a eu le concours en 2011, juste avant l'été.
Bravo.
Voilà.
Merci.
Capet de technologie.
Voilà, donc moi j'ai une question par rapport à vos propos que vous avez faits dans les journaux. Comme quoi l'avenir de l'UFM passerait par une spécialisation des filières pour éviter justement qu'il y ait des filières où il y ait très peu de promotion. Donc ça m'a fait sourire de ma propre expérience de technologie où la promotion est plutôt légère.
Et donc notre collègue, quand il parle de promotion, il veut dire les effectifs.
Hein. Oui, oui, c'est ça.
Pas effectif. Promotion dans le métier. Promotion.
Oui, pardon, j'ai pas été clair.
Non, et si, donc, si.
Et donc, ma question, c'est quel avenir vous voyez justement de ces choix qui peuvent être faits au niveau des différentes composantes des IUFM nationales, dans la mesure où il va falloir faire chacun un choix. Qui garde quoi et dans le cas de la technologie, comme les effectifs sont plutôt très réduits, alors que le RNR est basé historiquement dans le coin, la question est quelles vont être les bases des choix pour dire moi je prends telle composante, vous prenez une autre, est-ce que ça va être plutôt politique, est-ce que ça va être financier et du coup, ça pose plein de questions à la fois sur l'avenir de chaque IMUFM, est-ce qu'elle va continuer à exister telle quelle, enfin, voilà.
Ouais. C'est un peu compliqué. Ce qui veut dire, c'est pour toutes les préparations à faible effectif en master, s'il y a un nombre d'étudiants insuffisant, à Poitiers comme ailleurs, souvent ça ferme, parce que ça a un coût les formations. Et donc ça concerne les masters pour les concours de langue vivante étrangère, à part anglais et espagnol, mais tout le reste, italien, etc., russe où ils en font, il n'y a pas suffisamment d'étudiants, et donc le risque, c'est que toutes les universités ferment et qu'on ne prépare plus à ces concours, et les disciplines professionnelles et technologiques. Et donc moi, je dis ce qu'il faut, c'est que plutôt que de fermer partout, c'est s'entendre pour se répartir les préparations. Alors, ou bien à Poitiers, on fait le master CAPES italien, par exemple, et puis on le fait dans deux universités en France, et puis etc. Et puis le CAPES de russe ailleurs. Mais ça, c'est un peu stupide parce que ça oblige les étudiants qui ont, même si on parle beaucoup de mobilité étudiante, c'est loin d'être dans la réalité le cas. À se déplacer et tout. Je ne suis pas sûr qu'en les mettant à un seul endroit, on ait la somme des étudiants qu'il y aurait partout. Donc, ça veut dire d'autres pratiques mutualisées, formation à distance, c'est-à-dire avec des caméras, on arrive, vous mettez sous Skype, vous pouvez converser avec trois gus à l'autre bout, avec des grosses caméras, des visios, on peut trouver être inventif. Donc, ce n'est pas déplacé et que moi, je garde tel prépa et puis Limoges garde tel autre. Tu vois. C'est... avoir. Parce qu'évidemment, personne ne voudra lâcher. Ouais. Mais c'est si chacun garde ce qu'il a et tout seul à le faire, tout seul, ça va fermer partout. Et il y a plein de disciplines où on se posera plus la question parce qu'il n'y aura plus de préparation. Donc, ça ne sera pas est-ce que le nombre de postes baisse, c'est qu'il n'y aura plus de candidats. Donc, il faut inventer des choses. Mais
ça,
c'est vrai. Oui. Et ça, c'est vrai pour aussi pour les prépas agrègues, mais il y a aussi d'autres disciplines, quoi. Une mise en réseau. Ouais. Je veux dire, il y a des ressources qu'on peut partager. Avant, chacun faisait son cours et ne voulait pas passer son cours aux collègues parce que j'avais bossé un peu. Maintenant, il faut mettre en réseau. Et voilà, je veux dire, moi, j'apporte, mais c'est évident que l'autre, il apportera parce que, comme tu disais, personne n'enseigne en y allant comme, de façon libérale. Chacun bosse et voilà. Donc, mais c'est ça que je veux dire.
Merci.
Questions ? Plus de remarques ? Profitez-en. Non, on va clore alors cette rencontre. On va remercier nos deux intervenants d'être intervenus ce soir. Et juste avant que vous repartiez, si vous avez quelques minutes, j'aimerais bien que vous remplissiez un petit questionnaire pour savoir ce que vous avez pensé de la rencontre et comment vous avez été informé en fait de la rencontre ce soir. Voilà. Merci.
Ouais.